Le message qui va suivre vous est présenté par le Centre Christ en Action Évangélisation. Nous prions qu'à son écoute, votre vie sera transformée. Que le Seigneur vous bénisse.
Hallelujah! On avance. Dites à la personne à côté de toi, j'avance. Est-ce que toi tu avances aussi? Alors si tu ne veux pas avancer, suis-moi. Dis-lui, suis-moi et nous allons avancer ensemble. Il faut apprendre à dire aux autres, suis-moi et on va avancer. Vous savez, il y a d'autres personnes, quand tu les suis, tu avances. Mais il y a d'autres personnes, ça ne sert à rien. Mais il y a d'autres personnes, quand tu les vois partir, ils s'accrochent toi à lui. Parce qu'il sait où il s'en va. Béni soit le nom du Seigneur. Nous revenons sur l'homme intérieur. Dites l'homme intérieur. L'homme intérieur, vous savez que nous reflétons ce que notre homme intérieur est. Dites, je reflète ce que mon homme intérieur est. Répétez avec moi, je reflète, je manifeste dehors ce que mon homme intérieur est. Même si je cache, mais tôt ou tard, ça sortira. C'est comme un ballon plein d'air. Vous le mettez sous l'eau. Le ballon ne peut pas rester dans l'eau. Ça finira par sortir. Et notre homme intérieur, ce que nous sommes intérieurement, spirituellement, finira par se manifester extérieurement. On ne peut pas tant cacher cela. Ce que nous sommes intérieurement finira par se manifester. Ce que tu es intérieurement finira par sortir. Le vouloir ou pas, ça sortira. Et c'est pourquoi le Seigneur aime, cherche des hommes et des femmes qui bâtissent une vraie relation. Une vraie relation. Une vraie relation. Une vraie relation. Une vraie relation afin qu'il soit disponible. Quand quoi? Quand ces jours arrivent. Comme le jour où Esther, qui a oublié l'histoire d'Esther, qui a oublié ça. On est en train de parler sur Esther. Dites Esther. Son oncle Mardoché a dit, qui sait si tu n'es devenu reine de Babylone pour des occasions comme celle-ci. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'oncle Mardoché, l'oncle d'Esther, qui est un homme de Dieu formidable, il dit à Esther, Esther, qui sait, parfois tu es arrivé à cette élévation. Tu es devenu reine de Suse par rapport à une journée comme celle-ci où tu dois délivrer, où tu dois amener la délivrance, le sauvegarde de toute la communauté juive. Qui sait? Son oncle dit, qui sait, Esther? Orpheline que tu étais, abandonnée de tout le monde. Mais Dieu t'a préservé. Dieu a veillé sur toi. Pourquoi tu n'étais pas mort quand ton père et ta mère sont morts? Mais pourquoi toi, tu as été exempté? Pourquoi tu as été sauvegardé? Pourquoi l'ange a veillé sur toi? Pourquoi la faveur de Dieu était sur toi? Pourquoi? Qui sait si Dieu t'a préservé de cette mort-là à cause seulement de cette journée où tu dois sauvegarder toute la nation? Vous savez les amis, je reviens, je sens de l'insister. Dieu ne fait rien pour faire. Il faut comprendre pourquoi tu vis. Qu'est-ce que je veux dire par là? Sortons un peu de l'ordinaire. Sortons un peu de trop bas. Sortons un peu de raisonnements trop enfantés. Sortons un peu. Comprenez un peu. Entre à l'intérieur de toi-même. Dites, pourquoi Dieu, pourquoi je vis? Pourquoi je suis ce que je suis? Pourquoi je vis ce que je vis? Pourquoi j'ai ce que j'ai? Pourquoi? Pourquoi Dieu doit le faire alors qu'il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas? Mais pourquoi seulement Dieu me le donne à moi? Et c'est ça que Mardoché voulait dire à Esther. Il dit, Esther, qui sait si tu es devenue reine ici en Babylone? Tout simplement par rapport à cet événement. Parce que s'il n'était pas dans cette position-là, tu ne pourrais pas faire quoi que ce soit. Mais il a fallu que Dieu te lève jusqu'à cette position pour que tu aies un mot à dire pour la sauvegarde de toute une nation. Béni soit le nom du Seigneur. Les amis, c'est pourquoi il faut apprendre à développer ta relation. Les vendredis, les samedis, les dimanches, j'étais en train de prêcher à Québec dans une grande conférence où j'étais invité. Alors j'étais là. Et on a, le pasteur Jean, il a donné un temps que les gens témoignent ce qui se passait le vendredi. Alors une dame arrive, elle prend le micro. Vous savez, ce n'est pas un millier de nous les hommes de couleur. La plupart, c'était des gens de Québécois. Alors ils étaient là, la dame parlait. Elle dit, j'ai au-delà de 40 ans. Mais ce que je viens de vivre cette soirée, je n'ai jamais vécu ça. C'est quelque chose que je n'ai pas les mots pour vous expliquer. Je viens de voir Dieu. Vous savez, j'ai étudié, ma tête résonne avec une vitesse incroyable. Je résonne beaucoup. La dame a dit, mais malgré tout ça, me convaincre à propos de Dieu, ou bien vivre quelque chose, il faut que ces choses-là soient vraies. Elle tremblait dans tout son corps, elle dit, là, personne ne peut plus me convaincre, personne ne peut plus me convaincre de croire que Dieu n'est pas réel. Je viens de vivre quelque chose de personnel. Dieu est réel. Vous savez, quand cette dame parlait, elle tremblait. Moi, je la regardais, je dis, oh, et si j'avais décliné cette invitation, j'allais manquer mon occasion. Et si j'avais dit non, je me sens trop fatigué. Les amis, je traverse une période où je me sens tellement fatigué parce que je travaille dur. Et même je dors même 3-4 heures seulement. Et mais je me disais, Seigneur, mais si j'avais décliné cette invitation, parce que même le jour que je voulais partir, j'étais obligé de prendre mon garçon Tite. Je dis, Tite, entre avec moi dans la voiture parce que je ne me sens pas bien. Au moins, tu vas me surveiller. Je vais rouler. Mais tu me surveilles. Ah, vous savez, dès qu'il est rentré, il s'est endormi. Il s'est foutu. Mais tu te rends compte, si j'avais suivi cette fatigue, je vis encore une autre dame prendre le micro. Elle a témoigné encore un autre miracle qu'elle a vécu. Je dis, wow, est-ce que ça se passe aussi? Je vis encore un autre s'élever. Elle a dit, moi, c'est la première fois que je me vis. Encore un autre, viens. Je dis, mais non, Seigneur. Mais si j'avais dit non, je suis trop fatigué. Et dire au pasteur, je suis désolé. En fait, c'est ça qui m'arrivait. C'est ça que je voulais faire. Et il restait peu avant que j'entre dans la voiture. Parce que je sentais tout mon corps trembler. Je sentais comme si mon souffle, je me sentais pas bien. Je voyais comme si mon corps ne fonctionnait pas. Je disais, et si il restait seulement que j'appelle, je dis, pasteur, je suis désolé. Est-ce qu'on peut chercher un autre conférencier? Mais alors, j'allais me passer à côté de mon opportunité. J'allais passer à côté de l'occasion. Les amis, faut faire attention. Développe ton homme intérieur. Il faut que ton homme intérieur croisse. Il faut que ton homme intérieur grandisse. Mais vous savez que pour que ton homme intérieur croisse, c'est un choix personnel. Ce n'est pas le choix de la foule. Tous les gens qui viennent dans les églises ne cherchent pas que leur homme intérieur grandisse. Il y a d'autres personnes, 10 ans, 15 ans, ah, nous connaissons l'histoire de l'église. Quand est-ce que l'église a commencé? Ah, nous connaissons l'histoire. Ils peuvent connaître l'histoire, quand est-ce que l'église a commencé. Mais dans ce qui concerne grandir intérieurement, vous ne pouvez pas compter sur eux. C'est quand ton homme intérieur grandit que tu ne passeras pas à côté des opportunités. C'est quand ton homme intérieur grandit qui devient comme un aimant qui attire. C'est quand ton homme intérieur grandit que tu deviens comme un aimant qui écoute les sons de Dieu. Tu n'écoutes plus tes sens, mais tu peux écouter ce que Dieu te dit. Tu n'écoutes plus tes sens parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne vivent que dans l'écoute de leur vie, leur sens, leurs cinq sens. Ils marchent selon leurs cinq sens. Ils écoutent selon leurs cinq sens. Ils sont sensibles à leurs cinq sens. Ce qu'ils voient, ce qu'ils sentent, ce qu'ils entendent, tout. Ils ne vivent que pour ça. Mais ils ne peuvent pas aller puiser l'information dans leur être intérieur. Ça fait des années qu'ils sont dans les églises, mais ils ne comprennent pas. C'est quoi ça l'homme intérieur? Pour lui, il vient seulement, alléluia, alléluia, alléluia. Et puis, il... Voyez pourquoi des personnes vont vivre 40 ans, 50 ans, 60 ans. Ils vont rester avec l'histoire. Moi, j'avais donné ma vie à Jésus, ça fait longtemps. Mais Dieu te dit, tu as donné ta vie à Jésus, ça fait longtemps. Mais tu n'as pas marché selon mon plan. Tu n'as pas accompli ta destinée. Oui, tu vas mourir, tu viens au ciel. Mais tu n'avais pas accompli ce auquel je t'avais envoyé sur la terre. Parce que tu n'avais pas développé l'homme intérieur. Et comme tu n'avais pas développé l'homme intérieur, tu vas aller de gâchis en gâchis. Et comme tu n'avais pas développé l'homme intérieur, tu ne sauras pas entendre quand Dieu te parle, quand Dieu te donne des informations pour prendre des décisions. Voyez pourquoi les gens parfois courent toujours de gauche à droite. Ah, priez pour moi. Ah, priez pour moi. Vous savez que tu peux venir. Je peux prier pour toi. Je peux donner une parole de connaissance pour toi. Je peux prophétiser pour toi. Mais ce n'est pas suffisant pour le restant de ta vie. Ta vie est trop grande pour dépendre seulement d'une parole de connaissance. Ta vie est trop grande, ta destinée est trop grande pour dépendre seulement d'une prophétie. Ta vie est trop grande, la destinée que Dieu a pour toi est trop grande pour dépendre seulement d'une parole de connaissance ou bien d'une petite prière de quelqu'un. Ta destinée est tellement immense. Le destin que Dieu a pour toi est tellement grand que la prière, 10 minutes de prière de quelqu'un, bien, même une journée de jeûne et de prière pour quelqu'un n'est pas suffisant pour toi. Parce que ta destinée est immense. Ta destinée est grande. Ta destinée est loin. Ta destinée est big. Comme on le dit, ta destinée est le best. Ta destinée, tu sais, quand tu fermes tes yeux, pense toujours que ta destinée est meilleure. Alors, voyez-vous, la grandeur de ta destinée ne peut pas se conclure par 5 minutes de prière de quelqu'un ou une journée de jeûne où quelqu'un a prié pour toi. Ce n'est pas suffisant pour atteindre ta destinée. Ce n'est pas suffisant pour atteindre ta destinée. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, avec tristesse de vous le dire, beaucoup de personnes vont vivre avec le Seigneur sur la terre des années, mais n'ont pas atteint le plan de Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient des difficultés de développer leur homme intérieur. Ils marchaient seulement selon ce qu'ils voyaient, ce qu'ils entendaient, ce qu'ils sentaient. Ils marchaient selon ça. Ils marchaient selon l'humain, la chair, l'humain, naturel. Ils ne voulaient pas entrer dans le surnaturel. Alors que tu es un être spirituel. Tu es surnaturel. Tu dois développer plus à marcher dans le surnaturel que dans le naturel. Parce que le naturel peut te faire peur. Le naturel peut te décourager. Les choses naturelles peuvent te décourager. Tu sens, tu dis, je n'arriverai pas. Et tu commences à dire, je n'arriverai pas. Je suis foutu. Ça ne marche pas. Rien ne marchera. Papa. Tu marches dans le naturel. Tu parles selon le naturel. Tu parles et tu marches selon le naturel. Alors que l'homme intérieur ne marche jamais. Selon le naturel. L'homme intérieur ne marche jamais selon le naturel. L'homme intérieur marche dans le surnaturel. L'homme intérieur voit à une vision d'un aigle. L'homme intérieur... Ah. Et c'est ça. Quand l'homme intérieur est fort, les événements ne nous font plus peur. Regardez-moi. Les gens qui ne savent pas développer leur être intérieur, ils peuvent même servir dans les églises. Mais ils ne seront pas en mesure d'aller loin. Parce que l'homme intérieur n'est pas développé. Les amis, une seule chose que tu dois comprendre. Que ton homme intérieur, la croissance de ton homme intérieur va déterminer où tu iras avec ta vie. Parce que les instructions que Dieu va te donner, tu les recevras par l'homme intérieur. Qui a compris ça? Les instructions, les directives. Les directives que Dieu va te donner à propos de ta destinée, à propos de ta vie, à propos de tes décisions, à propos de ton mariage, à propos de je ne sais pas quoi, à propos de tes affaires, à propos de tes enfants, à propos de ta famille. Les instructions que Dieu va te donner, tu les recevras dans ton esprit, l'homme intérieur. Et comme tu dois les recevoir de ton nouvelle personne, l'homme intérieur, ce qui veut dire que tu n'as pas le choix que de faire que ton homme intérieur fasse quoi? Prenne de la force. Au fur et à mesure, il prend de la force. Quand les informations qui viendront du trône de Dieu descendront au travers du Saint-Esprit, vient, il les branche dans ton esprit, il dit, coute sur ce terrain. Et même quand tout le monde dit, ouais, c'est ça, toi tu dis, non. Parce qu'il y a une voix intérieure qui te dit, non. Et c'est là où il y aura du trouble. Parce que la majorité diront, mais non, c'est comme ça. Toi, tu diras, je ne le reçois pas. Qui est là? Et vous savez, quand on marche par la foi. On marche selon la voix de l'homme intérieur. C'est là où on devient en désaccord avec beaucoup de personnes. En désaccord. Parce que toi, tu marches par conviction. Dites conviction. Ah, quand on marche selon l'homme intérieur, on marche par conviction. 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 Qui est là? Qui est là? Lisons un peu dans Jean chapitre 6. Alors, à partir du verset 1, il dit, après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur les malades. Jésus montant sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger. Il disait cela pour, verset 6, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Verset 7, Philippe lui répondit, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçût un peu. Verset 8, un des disciples, André, disons tous André. André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tous ces gens? Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Et s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, le rendit grâce, ainsi de suite là. J'aimerais bien vous parler de 2 personnes ici. De 3 personnes. On parle d'un garçon, dites un garçon. On parle d'André, dites André. On parle de Jésus, dites Jésus. 3 personnes. 3 personnes ici. Ici nous voyons 3 personnes. C'est 3 personnes qui sont en action ici. 3. La Bible dit que Jésus s'est assis sur la montagne et il est en train d'enseigner. Et la foule était tellement immense. La foule, dites la foule. La foule, et on parle de 5000 hommes. Alors les Juifs, quand ils comptent, ils comptaient plus les hommes. Parce que dans leur culture, ils considéraient plus les hommes. Alors ils comptaient toujours les hommes. Quand ils disent 5000 hommes, ce qui veut dire qu'il y avait au moins 15000 femmes. Sans compter les enfants. Je ne sais pas si vous êtes là. Dans une foule où il y a 5000 hommes, attends-toi qu'il ait 15000 femmes. Sans compter les enfants. Alors la Bible dit que Jésus voyant la foule, il demande à la foule de s'asseoir. Il pose la question à ses disciples. Où allez-vous trouver de la nourriture pour le nourrir? Jésus pose la question aux disciples. Et en posant la question aux disciples, il dit, où allez-vous trouver la nourriture? Pourquoi? Pour faire nourrir au moins une affaire de 22 000 personnes, 23 000 personnes. Alors, Jésus pose la question, où allons-nous trouver la nourriture pour les nourrir? Ils sont au moins entre 22 000 personnes. Où allons-nous trouver la nourriture? La Bible dit que Jésus-Christ posa cette question pour le prouver, parce que lui-même savait ce qu'il allait faire. Alors, il y a une personne qui se présente, André. Dites André. André était le frère de Simon-Pierre. Alors, André se présente et dit, Seigneur, il y a un garçon qui a amené un petit panier où il y a 2 poissons et 5 pains. Alors, André, il vient, il dit, maître, il y a un garçon ici. Il a 2 pains. Il a amené son petit panier. Tu te rends compte? Suivez-moi bien. Suivez-moi. Suivez, s'il vous plaît. Ne soyez pas distrait. Jésus dit, faites-les asseoir. Mais les disciples disent, mais où allons-nous trouver la nourriture pour nourrir toute cette foule? Ils sont au-delà des 5000. Alors, il y a un André qui arrive, qui dit, maître, il y a un garçon ici. On ne dit pas, il avait quel âge. Il dit, il y a un garçon qui a amené un petit panier. Moi, j'étais en train de penser, je dis, ce petit garçon-là. Mais pourquoi il n'est pas resté son émission, il n'est pas resté à la maison pour regarder son émission chérie? Même s'il n'avait pas de télévision. Mais certainement, ils avaient quand même des sujets de distraction. Mais cet enfant, j'étais en train de penser, cet enfant-là, certainement, il aimait beaucoup l'école de dimanche. Alors, tu te rends compte, ce petit garçon-là prend ses 2 petits poissons et 5 pains, il le met dans son panier et il vient, il s'assoit dans la foule. Entre 20 000 personnes dans la foule, ce petit garçon-là, il était assis là, dans la foule. Dans la foule de moins de 20 000 personnes, ce petit garçon-là, j'étais en train de dire. Et si ce garçon a dit, oh non, ça ne m'intéresse pas, je préfère rester à la maison, ainsi de suite là. Non, blablabla. Qu'est-ce qui aurait arrivé? Ce garçon-là allait manquer son opportunité. Ce garçon-là allait manquer, qui sait si ce n'est Amen. Mais le garçon vient dans la foule avec son petit panier de 2 poissons, 5 pains. Il fallait que ce garçon-là soit là. Béni soit le nom du Seigneur. La deuxième personne, on voit la personne de qui? André. André, vous savez, il n'était pas plus audacé. Et en fait, quand vous regardez bien, André n'était pas trop connu. Mais quand vous regardez bien, c'est un jour, je vous parlerai sur ce monsieur-là, André. Mais il savait prendre des initiatives. Il n'était pas comme Pierre. Pierre était plus connu. Pierre était plus connu. Il n'était pas comme Jean. Mais par contre, dans toute la foule des disciples, seulement c'était André qui a eu l'audace d'aller convaincre le petit garçon-là que non, le prédicateur a besoin de ton panier. Qui est là? Je disais qui est là. Je disais qui est là. Regardez-moi. Il y avait plusieurs disciples, mais seulement André qui a eu l'audace. Quand vous regardez bien, quand vous lisez bien la vie d'André, l'apôtre André, quand vous allez regarder, vous allez constater que c'était un gars qui prenait tellement des initiatives. Mais il n'était pas connu comme étant écrit. Avez-vous déjà lu le livre d'André? Mais vous pouvez lire 1 Pierre. Avez-vous déjà lu le livre d'André? Non, mais par contre, vous pouvez lire le livre de qui? Des gens dans la Bible. Lui, il n'a pas écrit un livre. Mais par contre, quand vous regardez bien des décisions qu'il prenait, il fallait qu'il soit là. Ah, il fallait un André. Il a fallu un André. Il n'a écrit aucune lettre. Il n'a écrit aucun chapitre. Mais il a fallu un André. Béni soit le nom du Seigneur. Et la Bible dit que André va voir ce garçon en lui disant, attends, donne-moi ton panier. Le prédicateur là en a besoin, il en a besoin, donne-moi le panier. Alors c'est seulement André qui était doué de convaincre ce jeune garçon-là, ce petit garçon qui est venu avec ses 2 poissons et 5 pains. Il a fallu un André pour les convaincre. Il a fallu quelqu'un pour convaincre ce garçon-là. Donne-moi le pain. Le prédicateur en a besoin. Loué soit le nom du Seigneur. 2000 ans après cette histoire, vous regardez, aujourd'hui, on parle de la multiplication du pain que Jésus a fait. Mais il a fallu, pour que nous parlions de cette multiplication de pain, il a fallu ce petit garçon et André. Il a fallu ce petit garçon et en même temps qui? André. Sans le petit garçon, sans André, il n'allait pas entendre, on n'allait pas entendre de multiplication. Béni soit le nom du Seigneur. Sans ce petit garçon, sans André, on n'allait pas entendre de la multiplication du pain. Aujourd'hui, 2000 ans après, on continue à parler de multiplication de pain qui a nourri 5 000 hommes, ainsi de suite. Tu te rends compte, si ce garçon-là était resté chez lui, ce garçon-là allait passer à côté de qui sait? Il allait passer à côté de son opportunité. Regardez-moi. Est-ce que vous savez que dans la vie, il y a des opportunités qui se présenteront? Béni soit le nom du Seigneur. Je n'entends pas. Il y aura toujours des opportunités. Et vous savez que chaque jour, Dieu c'est un Dieu des opportunités. Dieu c'est un Dieu qui nous donnera toujours des opportunités. Dites à la personne à côté de toi, n'oubliez pas que Dieu c'est un Dieu d'opportunités. Répète encore, parle bien, dites, Dieu c'est le Dieu des opportunités. Et il prépare des opportunités pour toi. C'est pourquoi développe ton homme intérieur. Afin que quand l'opportunité se présentera, que tu ne passes pas à côté. Dieu c'est un Dieu des opportunités. Dieu, il est le Dieu des opportunités. Dieu te donnera toujours des opportunités dans ta vie. Mais ce n'est pas tout ce qui se présentera qui seront les opportunités de Dieu. Il faut développer ton homme intérieur afin que tu discernes quand est-ce que la vraie opportunité se présentera. Sinon, tu jugeras tout le monde. Vous savez, beaucoup de personnes actuellement jugent tout le monde. Oh, ma vie est ceci à cause d'un tel. Non! Tu étais, ça fait longtemps que tu connaissais le Seigneur. Mais pourquoi tu n'as pas développé l'écoute de la foi de Dieu? Tu te rends compte qu'il fallait ces garçons. Ces garçons étaient là. Vous savez, ces garçons-là étaient dans la foule. Parmi au moins 20 000 personnes, ils ne savaient pas que c'était son jour. Il ne savait pas. Ces garçons-là, ces petits garçons-là qui a amené les cinq poissons, et les deux poissons et les cinq pains, il était là dans la foule. Il ne savait pas que c'était son jour. C'était le jour de son opportunité. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Il faut toujours être prêt. Quand l'opportunité viendra, il faut que l'opportunité te trouve prêt. Loué soit le nom du Seigneur. Qui est là? Ah, vous savez, moi, quand je prêche comme si c'est la dernière fois que je prêche. Je prêche comme si, je ne sais pas, je suis en train de prêcher à un autre fils, à un futur Billy Graham. Je ne sais pas qui vous serez demain. Je ne sais pas ce que tu seras demain. Je ne sais pas qui vous serez. Je ne sais pas qui vous serez. Et parfois, par ce message, je ne sais pas, ce message va tellement te marquer que même ça va marquer l'enfant que tu donneras naissance dans 10 ans. Tu ne sais pas l'enfant que tu vas donner naissance, qui il sera. Alors, en prêchant comme je vous prêche ici, je dois saisir l'opportunité parce que je suis en train de parler à des générations. Je parle à des générations. C'est pourquoi je ne blague pas. Je n'ai pas le temps de niaiser. Je n'ai pas le temps de blaguer. Je n'ai pas le temps de blaguer. Si toi, tu vas blaguer, va blaguer avec ta vie. Je saisis l'opportunité parce que je parle à des générations. Des générations que mes deux yeux ici ne voient pas. Mais des générations que Dieu voit au travers de toi. Des enfants qui naîtront de toi. Des personnes que tu vas rencontrer. Des personnes que tu vas influencer. Et parfois, qui sait? Parfois, seulement c'est ce message-là qui va te marquer. Et c'est ça qui va révolutionner ta vie. Et qui va t'aider à toucher d'autres personnes. Et ces personnes-là seront touchées par d'autres. Qui sait si, Esther, qui sait si? Qui sait si ce n'est pour cette occasion-là que tu es devenue reine, que tu es montée au trône, tout simplement pour libérer le peuple. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Il faut toujours être prêt. Dites prêt. André parle au garçon et dit, mon ami, vous savez, convaincre un garçon qui est venu avec son petit panier. Et surtout dans quel temps? Et là, il fait très chaud. Quand il fait chaud, il fait très chaud. Maintenant, c'est tout son cœur qui était là-dedans. Béni soit le nom du Seigneur. Il se disait, bon, quand est-ce que le prédicateur va terminer? Et puis, je vais me mettre un peu à côté, je vais manger tout. Et puis, j'attends un peu. Au moment où les autres sont dans le moi au moins. Il avait tout planifié. Mais Dieu lui avait donné l'opportunité. Parce que quand vous lisez l'histoire, même après avoir distribué le pain, il est resté 12. Panier. Ce qui veut dire qu'il est resté encore plus que ces 5 pains. Les amis, je crois que si on devrait remettre à quelqu'un, on devrait dire prenez tous ces 12 pains, remettez cela à ces jeunes garçons. Remettez tout à ces jeunes garçons. Parce que ça lui revient. En fait, ce jeune garçon-là, il était dans la foule de 20 000 personnes. Il ne savait pas que c'était son jour. Il ne savait pas que c'était son jour. Regardez-moi. Chaque jour, vivez en étant prêt. Vis en étant prêt des opportunités que Dieu mettra sur ton chemin. Et vous savez, quand on vit en étant prêt, il y a des choses qu'on doit éloigner. Des choses qui peuvent empêcher l'opportunité de s'accomplir. Des choses qui peuvent empêcher à vivre l'opportunité. Il y a des choses, quand on vit en attendant le jour de notre opportunité, il y a des choses qu'on peut éloigner. On dit ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Telle attitude ne m'intéresse pas. Tel comportement ne m'intéresse pas. Telle façon de parler ne m'intéresse pas. C'est trop négatif. Non, je ne peux pas continuer à parler comme ça. Je suis à l'attente de mon opportunité. Je suis à l'attente de l'opportunité. Je ne peux pas me comporter comme ça. Je ne peux pas parler de cette manière. Je ne peux pas continuer à penser de cette manière. Non. Je dois être frais. Je dois être prêt et très attentif. Je vais être prêt parce que j'attends mon opportunité. Mais qui sait si? J'attends ce jour-là. Qui sait si? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Lisons un peu dans Éphésiens chapitre 5, verset 15. Éphésiens chapitre 5, verset 15. Qui reçoit quelque chose? Éphésiens chapitre 5, verset 15. Il dit ceci. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des quoi? Des folles. Comme de qui? Des sages. Est-ce qu'on peut le lire tout ça haute voix? Allons-y. Prenez donc garde de vous conduire avec quoi? Circonspection. Qui a une autre version? Qui a une autre version? Qui peut l'expliquer? Oui, lisez-la, frère. Alléluia. Ainsi, prenez bien garde que à votre manière de quoi? Il dit prenez garde. Ce n'est pas seulement le pasteur qui doit prendre garde, mais c'est toi qui dois prendre à ta manière de quoi? De vivre. Merci. Les gens donnent toujours la responsabilité. Ah non, la responsabilité revient à un tel, un tel, un tel. C'est pourquoi vous voyez les gens accuser les gens. C'est des accusateurs. Je peux dire, c'est des petits frères du diable, parce que le vrai grand accusateur, c'est le diable. Et comme le diable, c'est l'accusateur, ça veut dire que celui qui passe tout son temps à accuser, il est le petit frère ou bien la cousine du diable, la nièce de Satan. Parce que Satan, sa nature, c'est d'accuser. Ah, écoutez-moi bien, tout accusateur, il se dissocie. On peut rigoler, je vous le dis, je vous dis la vérité. Quelqu'un qui passe toute sa vie à accuser, à accuser, à accuser, il devient directement la nièce du diable. Si ce n'est pas la tante, les cousins. Recommencez le verset, frère. Écoutez, il dit ainsi donc. Ainsi, prenez bien garde. Il dit prenez garde. Dites prenez garde. Les amis, notre marche avec le Seigneur, notre relation avec le Seigneur nous demande de prendre quoi? Garde. Tu dois être sur tes gardes. Tu dois être sur tes gardes. Tu dois être sur tes gardes. Je ne veux pas dire que maintenant, vivez dans la peur ou vous tremblez partout. Qu'est-ce qui va m'arriver? Non, ce n'est pas ça. On dit prenez garde, ce qui veut dire sois responsable de ta vie. Prendre garde, ça veut dire avoir le sens de la responsabilité. Beaucoup de personnes n'ont pas le sens de la responsabilité. Ils rejettent toute la responsabilité aux autres. Il m'a trompé, il m'a menti, blablabla, il m'a promis, blablabla. Attends! Tu n'as pas le sens de ta responsabilité. Mais même quand on t'a fait la promesse, mais même quand vous avez décidé des choses, mais même quand tu t'es engagé à faire ceci, même est-ce que as-tu eu le temps de prier, même de jeûner, et même après avoir jeûné, as-tu eu le temps d'attendre? Oh non, j'ai jeûné 3 jours, alors moi je voulais seulement le même jour, bam bam, quand je termine le jeûne, avant que je mange, il fallait que Dieu me parle. Mensonge numéro 1. Dieu n'est pas influencé par ça. Parfois, Dieu peut te dire, attends. Ce n'est pas parfois parce que tu as terminé que Dieu va te parler. Tu peux attendre parfois 1 mois, 2 mois, 1 jour que Dieu va te parler. Si tu n'étais pas sensible, tu passes à côté. Parce que toi, tu pensais qu'après avoir jeûné 4 jours, Dieu devrait te parler ce jour-là. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il peut le faire, mais il n'est pas comme ça. Il peut aussi le faire. Je dis bien qu'il y a des moments où il peut le faire. Il y a des moments où il peut ne pas le faire. Et parfois, il t'a déjà parlé même avant que tu commences. Mais toi, tu n'as pas discerné. Tu pensais que Dieu, tu pouvais le manipuler par ça. Attends, ici nous appelons la croissance, nous enseignons la croissance. La croissance, ça veut dire que chaque personne doit faire quoi? Mûrir, dites mûrir. Il doit mûrir, écoutez, les amis, on doit grandir, mon ami. Les amis, on doit grandir, on doit donc quoi? Il dit, prenez donc garde, allez-y. Prenez bien garde à votre manière de vivre. Ça veut dire, je dois prendre garde à ma manière de quoi? De vivre. Quand je parle de vivre, comment je vis avec toi? Comment je me comporte? Ma vie, quelle est la place de Dieu dans ma vie? Quelle est la crainte de Dieu, la relation, l'intimité avec Dieu? Comment je vis? Comment je pense? Comment je parle? Comment je vois les choses? Mon jugement, je dois développer ma façon de juger, de voir les choses. Prenez garde la manière dont vous vivez. Continue, qu'est-ce qu'il dit? Ah! C'est trop fort ça. Il dit, ne vous conduisez pas comme un ignorant, c'est quelqu'un qui pense ne pas savoir. Il dit, ne vous conduisez pas comme des ignorants. Écoutez, le Seigneur dit, prenez garde à ta façon de vivre et ne te conduis pas comme un ignorant. Parce que les amis, je vais vous dire quelque chose. Et les amis, écoutez-moi bien, suivez. Attends, vous savez, parce que les gaffes que tu vas commettre, les gaffes que tu peux commettre ont des conséquences. Qui est là? Il y a des gaffes qu'on commet qui ont des conséquences. Ah oui, tu as commis une erreur, Dieu a pardonné. Mais il y a des conseils, dites conséquences. Vous savez, beaucoup de personnes, ils hurlent, mais il y a des conséquences. C'est pourquoi il dit, prenez ta garde. Prenez garde de la manière dont tu vis. Ne vis pas comme un ignorant. Dis ignorant de quoi? De ce que Dieu dit dans n'importe quel domaine. Parce qu'il y a d'autres gaffes. L'écoutez, est-ce que vous savez qu'il y a d'autres gaffes qu'on peut commettre, même en tant qu'enfant de Dieu, qui peut avoir des répercussions pendant ton... qui va te poursuivre le long de ta vie. Ça peut te poursuivre. Surtout si tu n'es pas bien enseigné. Et le diable peut profiter sur ces gaffes-là pour commencer à te culpabiliser. Alors, il faut que tu ailles quelque part où on t'enseigne encore que non, Dieu, il est le Dieu de la deuxième chance. Tu peux te relever et saisir l'opportunité. Mais est-ce qu'on est obligé de vivre gaffe sur gaffe? Non, il dit prenez garde de la manière dont vous vous conduisez. Ne vivez pas comme des ignorants. Un ignorant, c'est quelqu'un qui fait semblant de ne pas connaître. Un ignorant ressemble à un girafe. Quel est cet oiseau-là qui marche dans le désert, qui fonce? Autriche. L'Autriche, quand il voit un chasseur qui arrive, lui prend sa tête, il le fonce dans la terre. Mais tout son paquet de corps est dehors. Lui, en fonçant sa tête dans le sable, il dit, je me suis bien caché parce que je ne le vois pas. Et vous voyez, le chasseur vient, il ne fournit aucun effort. Il coupe la tête. Beaucoup de personnes font ça. L'Autriche, c'est un des oiseaux les plus idiots. Tu te rends compte? Tu te rends compte, tu vois le chasseur qui arrive avec son fusil, et lui, il prend sa tête, et il fonce sa tête dans le sable. Il dit, bon, maintenant, ma tête est dans le sable, je ne le vois pas, mais tout son corps est dehors. Et souvent, on fait ça. On fait ça. Non. Il dit, ne soyez pas ignorant. Si tu es ignorant, cherche quelqu'un d'autre qui connaît. Quelqu'un qui connaît. Pas tout le monde. Il y a d'autres qui prétendent connaître, mais ne connaissent rien. Ils ont la démangeaison de connaître, mais ne connaissent rien. Niente. Connaissent rien, absolument rien. Dites rien. Il ne faut jamais être impressionné par quelqu'un qui pense connaître, mais qui ne connaît pas parce qu'on connaît quelqu'un qui connaît par son caractère. Dites caractère. Sans caractère, tu peux dire tu connais des versets, tu ne connais rien. Tu peux te pâter toi-même, mais tu ne pâteras pas Dieu. C'est pourquoi il faut savoir à qui te confier. Il faut se confier à des personnes au moins qu'on connaît, qu'on a un témoignage, ceux qui n'ont pas la manipulation, qui peut t'aider, qui peut te donner des conseils, qui peut prier pour toi. Loué soit le notre Seigneur. Et c'est pourquoi ici, on ne confie pas la vie des gens à n'importe qui. On ne confie pas la vie des gens à n'importe qui. Quand la vie touche à son intimité, on la voit. Frère Francisco, viens, on s'occupe de lui. On ne permet pas à n'importe qui. Et c'est pourquoi n'écoutez jamais des conseils n'importe comment. Quand les gens viennent vous dire des conseils qui peuvent vous dérouter, qui peuvent vous faire n'importe quoi, maintenant ne jetez pas la blâme à nous. Parce que si tu n'es pas venu voir pour que nous te donnons des conseils qu'il faut, garde ça pour toi. Béni soit le nom du Seigneur. Oh non, moi j'ai rencontré quelqu'un à l'église, non? Il m'a détruit, il m'a dit ça. Mais attends, est-ce que tu étais obligé d'écouter? Mais pourquoi tu as pris seulement des conseils d'une seule personne? La fois passée, j'étais en train de dire, avant de prendre la conseil, il faut essayer de voir au moins 4-5 personnes qui sont assises, qui sont matures. Qui est là? Je disais qui est là? De toute façon, les conseils qu'on donne, ce n'est même pas payant, c'est gratuit. Mais alors qu'il y a des psychologues là, tu vas les voir $50 l'heure. Mais nous là, on ne paye pas. Tu viens, on t'écoute et puis on te dit, faites attention, faites attention, faites attention. Et puis tu progresses. Béni soit le nom du Seigneur. Quelqu'un peut dire amen. Il dit, faites attention. Frère, continue parce que cette version-là est très forte. 16, oui. Et il dit, faites un bon usage. De quoi? De tout. Occasion, dit toute occasion. Il dit, faites un bon usage de toute occasion qui se présente à qui? À moi. Faites un bon usage de toute occasion qui se présente. Faites un bon usage. Ça, c'est un message. C'est un message puissant que je pourrais même développer. Faites un bon usage. Faites un bon usage. Pourquoi? C'est parce que quand ces jours-là arrivent, les qui sait quand, les qui sait si ce n'est pour autant de telles opportunités que tu es arrivé là où tu es arrivé. Écoutez-moi bien, je disais au début, Dieu c'est le Dieu des opportunités. Et c'est pourquoi tu dois faire bon usage de ton temps, de ta vie. Avant de terminer, quelqu'un peut dire un bon amen. Quelqu'un peut dire alléluia. Je crois que je vais m'arrêter là. Je vais vous dire quelque chose. Dieu, c'est un Dieu, premièrement, qui veut ton bien. Dieu veut mon bien. Deuxièmement, je dois être conscient que Dieu m'aime. Est-ce que tu sais que si tu n'es pas conscient que Dieu t'aime, c'est difficile de lui faire confiance? Pourquoi ne pas, parfois, tu te lèves le matin, tu commences à louer l'amour de Dieu. Tu dis, Seigneur, je te bénis, je te loue parce que tu m'aimes. Oh, beaucoup de personnes, dès qu'ils commencent la prière, ils commencent, Seigneur, tu connais mes besoins, Seigneur, tu connais mes besoins. J'invoque le sang de Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Tout simplement pour se consoler parce qu'il sait que s'il ne demande pas pardon, Dieu ne l'entendra pas. Arrête ça. Commence par ouvrir ta bouche. De toute façon, avant même que tu naisses, Dieu t'aimait. Alors, ce n'est pas parce que tu dis, j'avale le sang de Jésus, je le couvre, je l'applique sur les oreilles, sur les nez, ce n'est pas ça. Faites attention de bâtir une religion. Lève le main, lève-toi très tôt le matin, chante un peu l'amour de Dieu, dis-lui, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. La, 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 la. Tu chantes. Dis-lui que tu es bon. Dis-lui que tu es merveilleux. Dis-lui que tu es puissant. Dis-lui que tu es grand. Ah, Seigneur, je reçois ton amour. Seigneur, tu m'aimes. À tel point que tu ne me condamnes pas. Tu ne me culpabilises pas. Et vous savez, beaucoup de personnes ont des difficultés de marcher avec Dieu parce qu'ils voient toujours Dieu avec un marteau. Il cherche. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Ah, encore toi, tu viens de se chamailler un peu avec ta fille. Un beau marteau, pas. Dieu n'est pas comme ça. Vous savez, parfois, on a été élevé dans une éducation de nos parents, de parents qui étaient agressifs, qu'on pense que Dieu aussi est agressif. Qui est là? On a vécu dans un environnement où les gens étaient tellement durs qu'on pense que Dieu est radicaux. Pourquoi ne pas commencer la journée, tu lèves tes mains, tu dis, Seigneur, je te remercie comme Esther. Ah, je bénis ton nom, Seigneur, tu m'aimes tellement. Je sais que tu m'aimes, Seigneur, je confesse ton amour, Seigneur, je crois dans ton amour, je reçois ton amour. Père, je te remercie. Et quand tu fais ça, là, tu es, oh, béni soit le nom du Seigneur. Ça, le fait de savoir que tu vis avec quelqu'un qui t'aime, ça fait du bien. Qui est là? Non, je disais qui est là. Non, je disais qui est là. Vous savez, le fait de commencer la journée en sachant que Dieu t'aime. La Bible dit, il ne prive d'aucun bien. Dieu ne prive d'aucun bien. Lisez cela dans l'épisode. Il ne refuse aucun bien. Mais Dieu ne refuse aucun bien à ceux qu'il aime. Et Dieu nous aime où? Il nous aime en Jésus. Parce que quand Dieu te voit, il voit Christ en toi. Quand Dieu te voit, il voit la grâce de Dieu. Quand Dieu te regarde, il ne te voit pas toi en tant qu'humain. Il voit Christ en toi. Il voit Jésus. Ce qui veut dire que tout ce que tu peux recevoir de Dieu, c'est parce qu'il voit Jésus en toi. Il dit, Jésus, il est la porte ouverte. Il est même la grâce. Alors, tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime, Seigneur. Je reçois ton amour. Non seulement moi, je t'aime. Parfois, c'est facile de dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Mais dis-moi, Seigneur, tu sais, je sais que tu m'aimes. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Tu m'aimes tellement. Tu m'aimes tellement. Tu m'aimes et le diable viendra chuchoter un peu sur tes oreilles. Ah, et s'il t'aimait, pourquoi ton compte est vide? Et tu dirais, stop! Le diable viendra te dire encore, quand tu lèves le main, tu commences à dire, Seigneur, je te loue, je te glorifie parce que tu m'aimes. Ton amour pour moi est tellement grand. Et le diable vient dire, Mais tu sais ce que tu viens de vivre? Tu viens de vivre une déception. Hein? S'il t'aimait, pourquoi il a permis ça? Tu lui dis, stop! Qui t'a mêlé dans notre causerie? C'est comme ça. Les diables parlent de cette manière-là. Vous ne le savez pas. Les gens pensent que le diable viendra toujours avec une soutane noire, rouge, bien rouge bordeaux, dit, je suis monsieur le diable. Si Dieu t'aimait, pourquoi tout cela s'arrête? Il n'est pas comme ça. Il vient d'en dépasser. Si Dieu t'aimait, mais pourquoi tu viens de perdre ton emploi? Si Dieu t'aimait, mais pourquoi ça t'arrive ça? Si Dieu vraiment t'aimait, mais tu ne sais même pas quoi tu mangeras demain. Si Dieu t'aimait, regardez ton âge. Si Dieu t'aimait, tu as terminé tes études, tu n'as même pas un emploi favorable. Si Dieu t'aimait. Mais pourquoi tu as fait faillite dans tes affaires? Si Dieu t'aimait. Il change la main. Et je te m'enverrai vraiment. Mais vraiment, si Dieu m'aimait. Tu as tout gâché. Dis-lui, stop. Il m'aimait. Vous savez pas qu'il y a d'autres opportunités. Dieu t'a échappé. Dieu t'a préservé de justesse. Mais comme nous voyons toujours le futur, mais comme nous voyons toujours le présent plutôt, nous voyons toujours le présent. Quand les choses n'ont pas fonctionné dans le présent, on dit, waouh! La Bible dit, écoutez-moi bien, nos voix ne sont pas ses voix. Nos pensées ne sont pas... Ah, mais non, mais pourquoi? Mais pourquoi moi je voulais maintenant? moi j'étais comme ça, en 82, j'étais comme un gros bébé. J'étais là, j'étais en train de bouder dans la prière. En 82, je voulais partir quelque part là. Alors le Seigneur, la porte s'est fermée. J'étais là, Seigneur. Vous voyez comme un bébé qui dit, c'est comme ça parfois nous sommes. Hein. On fait des crises, dites crises. On fait des crises d'adolescence spirituelle. Seigneur, moi je ne comprends pas. Tous les dimanches je suis là. Le mercredi je viens prier. Et je jeûne tous les mercredis. Et les dimanches, encore de veiller. Ah, je viens encore. Oh mais Seigneur, mais pourquoi tu n'as pas agi? Dieu te dit, tu ne connais que le présent, tu ne connais pas le futur. Laisse-moi, le maître des circonstances et des temps, moi qui connais ton futur, laisse-moi gérer les choses. Laisse-moi guider tes pas. Abandonne-toi entre mes mains. Fais-moi confiance. Ne boude pas. Cela ne t'amènera nulle part. Et le diable te dira, ah, voyez-vous, il ne t'aime pas. C'est pourquoi il te prive de ça. Viens, je vais te montrer le chemin des raccourcis. Et il t'amène dans le chemin des raccourcis. Tu veux te lever, aller, non, n'allez pas à l'église parce que sinon, c'est faux fil avant encore, je veux parler de la part de Dieu. Reste ici. Et la Bible dit que le diable est rusé, dites rusé. Quand il dit rusé, ça veut dire qu'il a plusieurs méthodes. Il a plusieurs méthodes parce qu'il sait. On n'a pas le temps, on va s'arrêter là.
Nous vous remercions d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 514-931-2954 ou nous visiter sur Internet au www.christenaction.com.